Et bonjour à tous. Le lithium, on en a de plus en plus besoin pour les voitures électriques. Mais pour l'instant, on en produit surtout en Australie, au Chili ou en Chine. Bonjour Maxime Tellier.
Bonjour.
Des projets de mines, il en existe pourtant en France, dans l'Allier et en Alsace. Mais on va voir qu'il existe encore beaucoup de questions sans réponse au sujet de leur impact sur l'environnement. Et puis nous recevrons Romain Mielcarec. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous publiez un livre dans lequel vous racontez comment, alors que vous étiez jeune journaliste à Paris, vous avez été approché par un espion russe et comment, peu à peu, vous êtes devenu une source pour les services de renseignement français.
Secret d'info, Jacques Monin sur France Inter.
C'est le minerai indispensable pour rouler électrique. Le lithium, un or blanc qui se négocie plus de 50 000 dollars la tonne. Pour le moment, importé à 100% de Chine ou du Chili. Mais demain, il pourrait être produit à Échassières, dans l'Allier, sur ce site où on exploite le kaolin depuis le 19e siècle.
Voilà un extrait d'un journal de France 3 qui avait été diffusé le 24 octobre dernier. On vient d'apprendre que l'entreprise française Imerys a l'intention d'exploiter un gisement de lithium dans l'Allier. Le lithium qui sert donc à fabriquer les batteries de nos téléphones portables, mais aussi et surtout maintenant des voitures électriques. Alors pour commencer avec vous, Maxime Tellier, on va d'abord regarder à quoi ressemble le site d'Échassières dans l'Allier. Échassières, c'est là où Imerys projette donc d'extraire du lithium.
Oui, alors c'est un vieux site minier exploité depuis le 19e siècle. À Échassières, d'ailleurs, les rues portent des noms de minéraux qu'on a déjà extraits par le passé. Imerys a donc racheté cette carrière à ciel ouvert en 2005. Et aujourd'hui, une vingtaine de personnes y travaillent en permanence pour extraire 25 à 30 000 tonnes de kaolin par an.
Alors le kaolin, on va préciser ce que c'est.
C'est un matériau blanc extrait de l'argile présent en surface qui sert à fabriquer du carrelage ou de la céramique. Si vous avez de la porcelaine de Limoges chez vous, il y a de grandes chances pour que le kaolin soit issu de cette carrière de l'Allier.
Ouais, et donc en plus du kaolin, il y a aussi du lithium dans le sous-sol.
Oui, et cela on le sait depuis longtemps, depuis les années 60, quand le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minier, qui est notre service géologique national, a découvert un gisement de granit sous la carrière. Le granit qui peut être une roche lithinifère, c'est-à-dire riche en lithium.
Et ce lithium, il y en a beaucoup ?
Oui, énormément même. Imerys a entamé des sondages du sous-sol depuis 2 ans et il a estimé la quantité d'oxyde de lithium à plus d'un million de tonnes. Et lorsqu'il en a eu la confirmation, le directeur général de l'entreprise, Alessandro Daza, a annoncé la nouvelle. C'était le 24 octobre dernier, lors d'une visioconférence avec les investisseurs.
Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que les résultats de la campagne de sondage que nous avons menée sont plus qu'encourageants. Imerys veut devenir l'un des plus gros fournisseurs de lithium en Europe. À terme, nous visons une production annuelle de 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, suffisamment pour équiper 700 000 voitures électriques chaque année.
700 000 voitures par an, rien qu'avec ce lithium ?
Oui, et on pourrait en extraire pendant 25 ans au moins, et même peut-être pendant plus longtemps, car le gisement de lithium est sans doute plus important que prévu initialement.
Le gisement ne s'arrête pas là où l'on pensait. Il continue plus profondément et aussi plus au sud. Nous avons donc lancé une nouvelle campagne de sondage souterrain pour mesurer le potentiel total du gisement. Nous sommes très confiants et nous pensons que nous pourrons prolonger la durée de vie de la mine au-delà de 25 ans.
25 ans d'extraction donc, mais comment il sera extrait ce lithium ?
Alors Imerys a expliqué qu'il a l'intention de creuser des galeries souterraines sous la carrière actuelle de kaolin, ce qui lui permettrait de limiter les nuisances sonores et le rejet de poussière. Le directeur général de l'entreprise a aussi précisé ses intentions à ce sujet lors de sa visioconférence du 24 octobre.
Il y aura trois parties distinctes. Une première partie dédiée à l'extraction et au concassage de la roche entièrement souterraine. La deuxième partie sera constituée de l'usine de concentration, située à la surface, juste au-dessus. À cette étape, nous allons séparer les différents minéraux les uns des autres. Enfin, la troisième partie sera l'unité de conversion, qui ne sera pas située sur place, mais sur un autre site industriel dans la région. Nous y extrairons le lithium à partir de la roche concentrée.
Mais ça veut dire qu'il y aura une usine qui devra séparer le lithium des autres métaux et qui sera donc à proximité, elle, du site ?
Oui, une usine qui interviendra en bout de chaîne. Ce que dit Imerys, c'est qu'il va creuser, puis transporter le minerai broyé en le faisant transiter à travers des tuyaux, des petits pipelines, jusqu'à une gare, où le minerai sera ensuite chargé sur un train qui l'acheminera vers, effectivement, la future usine d'Imerys.
Et on sait où elle sera, cette usine ?
Non, on ne le sait pas encore. Imerys dit étudier trois sites différents, mais sur place, beaucoup évoquent Montluçon.
Donc peut-être Montluçon, on verra. Et ensuite, ce lithium, on le vendra à qui ?
Alors, tous les acteurs de la chaîne de production des batteries se disent intéressés, y compris les constructeurs automobiles eux-mêmes, comme Stellantis, le fabricant des Peugeot et des Citroën en France, construit trois usines actuellement de batteries en Europe, dont une dans les Hauts-de-France avec Total et Mercedes au capital. Yann Vincent dirige cette nouvelle filiale qui s'appelle ACC pour Automotive Cells Company et il reconnaît être intéressé par cette future mine de lithium.
Le projet dans l'Allier, dont on a entendu parler très récemment, est quelque chose que l'on regarde avec évidemment bienveillance.
Imerys a annoncé ce projet fin octobre. Ils ont dit que dans les jours et les semaines qui ont suivi, ils ont été contactés par de très nombreuses personnes. Vous faisiez partie de ces personnes ?
Oui, on a commencé effectivement à discuter avec eux. Ça peut permettre effectivement de contribuer à cette sécurisation d'approvisionnement en lithium.
Donc, de grands acteurs se positionnent.
Oui, et c'est le cas de tous les constructeurs automobiles qui doivent aller très vite pour sécuriser leurs approvisionnements en matériaux pour batteries. Parce qu'à partir de 2035, l'Union européenne va interdire la vente de voitures neuves à moteur thermique. Il n'y aura plus que l'électrique et c'est dans 12 ans seulement.
Ouais, 12 ans, c'est quasiment demain donc. Sachant que du lithium, il en faut beaucoup pour chaque voiture, pour chaque batterie en tout cas.
Oui, en moyenne, la batterie d'un véhicule électrique pèse 500 kg, dont environ 50 kg uniquement pour le lithium.
50 kg, c'est pas rien. Mais alors, Imerys, qui espère donc répondre à ce marché des batteries françaises, c'est quoi précisément cette entreprise ?
Alors, Imerys, c'est un acteur important du secteur minier. Il gère 32 sites industriels en France, il vend dans 142 pays et il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros l'an dernier. Et pourtant, ce n'est encore qu'un petit acteur parmi des géants très bien implantés. Comme l'explique Benjamin Louvet, il est spécialiste des marchés de matières premières chez Ophi Asset Management.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 5 compagnies dans le secteur du lithium, 5 compagnies qui représentent à peu près 80% de la production mondiale. On a 2 géants nord-américains, Albemarle et Livent. On a une société sud-américaine, SQM, et puis 2 sociétés chinoises, Ganfeng et Tianqi Lithium, qui sont à elles seules un espèce de monopole, d'oligopole, on va dire, puisque 5 sociétés représentent 80% de la production de lithium.
Et Imerys n'est donc pas dans ces 80%, c'est donc encore un petit à l'échelle mondiale. Mais il y a qui derrière cette société ?
Il y a principalement 2 familles qui détiennent une part majoritaire du capital. Il y a d'abord la société Frères Bourgeois, elle est installée en Belgique. Le groupe a été créé par le milliardaire belge Albert Frères qui est décédé en 2018. C'est une holding, une société de portefeuille qui détient notamment le château Cheval Blanc, un grand cru de Saint-Émilion avec Bernard Arnault.
C'est pas tout à fait la même chose que le lithium. Et l'autre famille, c'est qui ?
L'autre famille est canadienne, la famille Desmarais, qui est à la tête de holding fondée par Paul Desmarais. Lui aussi est décédé, mais il fut l'un des hommes les plus riches du Canada. Ensemble, ces deux familles sont donc actionnaires d'Imerys, mais aussi d'autres grands groupes comme le cimentier Lafarge, Adidas, Pernod Ricard ou encore Total.
Ouais, et ce qu'il faut dire, Maxime, c'est que ces deux familles, on en parle maintenant, mais ces deux familles sont arrivées dans l'Allier à pattes de velours, puisqu'en fait, toutes les études préliminaires se sont faites dans le plus grand secret.
Oui, l'entreprise a présenté son projet le 24 octobre au grand public, mais en coulisses, il n'était que quelques-uns à être dans la confidence. Pendant les études préliminaires, une partie des élus locaux a même dû signer une clause de confidentialité à la demande de l'entreprise. C'est le cas du président du conseil départemental de l'Allier, Claude Riboulet, qui assume, lui, parfaitement d'avoir gardé le secret.
Tout projet a une phase qui doit rester discrète et confidentielle. C'est la phase qui vise à dire est-ce que le projet est viable ou est-ce qu'il n'est pas viable. Moi, il y a des tas de projets dans l'Allier où on me demande de rester discret sans me faire signer clause de confidentialité en disant tant que c'est pas sûr, on vous demande, monsieur Riboulet, de pas communiquer. Et en général, en matière d'économie, je peux vous le dire, chaque fois qu'il y a des projets sur lesquels il y a trop de communication en amont, vous êtes sûr qu'à un moment donné ou à un autre, ça pose des difficultés qui sont plantées. Bon, dans l'imagerie populaire, on imagine peut-être, ou on voit peut-être des images qui sont d'un autre temps, d'un autre siècle. Donc aujourd'hui, la prudence de vérifier si elle est viable ou pas me paraît pas scandaleuse. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui s'interrogent, je peux comprendre qu'il y a des gens qui puissent dire « Ah, mais sous un ton complotiste, est-ce qu'on nous cache des choses ?» Aujourd'hui, non, il n'y a rien à cacher.
Et si le président du conseil départemental a été associé au pré-projet, c'est notamment parce qu'Imerys prévoit de faire passer son pipeline qui transportera le minerai sous les routes départementales existantes, ce qui permettra d'éviter d'avoir recours aux camions.
France Inter, secret d'info.
Alors maintenant qu'on a vu en quoi consistait le projet d'extraction de lithium dans l'Allier, Maxime Tellier, bah parlons des autres gisements qui existent en France, parce qu'il n'y a pas que dans l'Allier qu'on en trouve du lithium.
Non, des gisements existent ailleurs, effectivement, documentés par le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minier, qui a publié une étude en 2018 sur le sujet. Il en a d'abord identifié à d'autres endroits dans le Massif central. 3 permis exclusifs de recherche ont d'ailleurs été déposés en Haute-Vienne, là encore sur d'anciens sites miniers, par la compagnie des mines arédiennes. C'est une société qui appartient à une start-up canadienne. Elle aussi recherche différents matériaux, dont du lithium.
Donc là, on est encore pas loin de l'Allier, mais il y en a aussi des gisements identifiés en Bretagne.
Oui, on a identifié un gisement très important de granit riche en lithium sur la commune de Tréguennec, dans le Finistère.
Et on le sait comment, ça ?
Toujours grâce à la même étude du BRGM, publiée en 2018, qui faisait le point sur l'état des ressources françaises en lithium.
Ouais, sauf que cette étude, en tout cas la présence de ce gisement, elle a apparemment provoqué une certaine inquiétude.
Oui, en fait, c'est une petite phrase qui a mis le feu aux poudres. En février dernier, lorsque la presse locale fait état de l'existence du gisement, la secrétaire d'État à la biodiversité Bérangère Abba vient sur place, sur une ancienne carrière de concassage de galets construite par les Allemands pendant l'occupation. Et au micro de nos confrères du Télégramme, elle a des propos plutôt ambigus sur l'éventuelle ouverture d'une mine.
Je crois que ces questions, elles sont suffisamment profondes et importantes pour être vraiment dans le débat public et pour être pesées au regard déjà de ce que les scientifiques nous indiqueront et des possibles, des solutions ou non pour décider si on doit effectivement donner une suite en termes d'exploitation.
C'est un peu une réponse de Normand, ça. Hein. C'est pas oui, mais c'est pas non.
Exactement. Et dans la foulée, le 26 février, 600 personnes, dont le maire, se rassemblent à Tréguennec pour dire non à la mine. Ce qui n'est pas rien pour un village qui compte 350 habitants.
Ouais, effectivement. Et le projet, il en est où alors ?
Alors j'ai interrogé le ministère de la Transition énergétique et sa réponse est toujours assez ambiguë. On m'a répondu qu'aucune entreprise n'était candidate et qu'aucun permis de recherche n'avait été déposé. Maintenant, mener un tel projet dans une zone naturelle protégée et connaissant l'hostilité des élus et des habitants semble compliqué. Il faut savoir que cette zone est aujourd'hui triplement protégée. Zone Natura 2000, zone humide labellisée et propriété du Conservatoire du Littoral.
Donc on voit mal une mine dans une zone aussi sensible. Et sinon, il y a d'autres gisements de lithium en France ?
Oui, l'autre région prometteuse, c'est le bassin rhénan en Alsace, à la frontière avec l'Allemagne. Là, plusieurs projets sont en cours, mais ils sont d'une nature très différente de ceux qu'on vient d'évoquer, car le lithium ne se trouve pas dans la roche, mais sous une forme liquide dans le sous-sol, comme le précise Jean-Jacques Graff, qui est le président de l'AFPG, l'Association française des professionnels de la géothermie.
Ce lithium, il provient des roches profondes, donc notamment des roches granitiques ou des grès qui se trouvent en profondeur, plutôt en Alsace du Nord, des gisements importants, mais quand on va vers le sud, on peut aussi trouver du lithium, mais sans doute en plus faible quantité parce qu'il y a moins de ressources. Par contre, effectivement, aujourd'hui, le point de concentration le plus élevé aujourd'hui en métropole, hein, c'est bien l'Alsace du Nord.
Ouais, donc il y en a l'état liquide dans le sous-sol alsacien. Mais comment on fait pour l'extraire, ce lithium, s'il ne se trouve pas dans la roche comme dans l'Allier ?
Eh bien, l'idée, c'est d'utiliser la géothermie, avec laquelle on produit déjà de la chaleur et de l'électricité, en pompant de l'eau chaude dans les couches profondes, et d'extraire au passage le lithium qu'elle contient. Plusieurs projets existent, notamment celui d'électricité de Strasbourg. C'est une filiale d'EDF qui exploite des centrales géothermiques dans la région. Écoutez sa directrice générale déléguée, Béatrice Pandelis. Elle aimerait bien ajouter la production de lithium à la palette de ses activités.
Nous sommes à la recherche d'un partenaire ou de plusieurs partenaires pour organiser cette extraction de lithium et pourquoi pas fédérer autour de l'Alsace et de son territoire une vallée lithium qui pourrait alimenter les usines françaises de construction de batteries. Nous sommes en phase de poursuite des études, mais nous avons une ambition de pouvoir produire du lithium à horizon 2030.
Mais comment on fait concrètement pour le produire, ce lithium, pour l'extraire en fait de l'eau ?
Alors là, il n'y aurait pas de mine, pas de galerie creusée, pas de roche broyée. L'idée est de l'extraire directement à partir de la saumure pompée dans le sous-sol profond.
La saumure, c'est-à-dire ?
C'est une eau salée qui est riche en minéraux.
Ouais, donc le projet serait de faire en fait d'une pierre deux coups, hein, de continuer à produire de la chaleur en pompant de l'eau chaude dans le sous-sol et en même temps d'aspirer au passage le lithium, quoi.
C'est ça, et Fabien Burdet, qui dirige les programmes liés au lithium chez Eramet, l'un des leaders français dans le secteur minier, nous explique comment on en est arrivé à maîtriser cette technique.
Il y a eu une phase préparatoire, j'allais dire, qui s'est appelée EGELI, qui est un projet européen qui a duré 3 ans et qui a prouvé que oui, on est capable d'extraire le lithium de la saumure géothermale d'Alsace et de produire à partir de ça un carbonate de lithium de qualité batterie. Donc cette preuve de faisabilité, elle a été faite dans le cadre de ce consortium européen et maintenant en fait on est en train de bâtir un projet, alors de s'organiser, de lancer un projet d'étude de ok, est-ce qu'on est capable de produire durablement, et c'est important d'insister sur durablement, du lithium à partir des saumures géothermales qui sont présentes en Alsace.
Et il y a déjà des clients pour les projets alsaciens ?
Rien de concret encore côté français, mais à quelques kilomètres de là, dans la partie allemande du bassin rhénan, là, des projets sont déjà bien avancés. Le constructeur français Stellantis, encore lui, a notamment signé un contrat avec la start-up australienne Vulcan, qui veut extraire du lithium géothermal. Et Stellantis est du coup entré au capital de Vulcan.
Et en Alsace, la production, elle devrait commencer quand ?
Les annonces sont moins précises que pour Imerys dans l'Allier. Certains évoquent 2026, en tout cas si tout va bien, avant 2030.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on sait désormais qu'il y a des projets d'extraction de lithium dans le Massif central et en Alsace, Maxime Tellier, et que chacun y va de son couplet sur ce que devrait être une mine durable, donc respectueuse de l'environnement. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment extraire du lithium proprement ?
Alors, une mine sans impact, ça n'existe pas, et ça, les entreprises du secteur minier le disent elles-mêmes, y compris pour les projets en France. Mais on peut minimiser ces impacts, et c'est ce à quoi s'engagent les acteurs dont on a parlé.
Mais comment ça se passe dans les mines ? Parce que ça peut peut-être servir de référence. Comment ça se passe dans les mines de lithium qui existent déjà ?
Il existe deux façons de faire très différentes selon la forme que prend le lithium dans le sous-sol. Écoutez Romain Millot, qui est géochimiste au BRGM. Il nous explique comment on produit du lithium actuellement dans d'autres pays.
C'est essentiellement, à l'heure actuelle, du lithium qui provient d'Australie. Donc il faut casser, broyer cette roche, la lessiver avec des produits plus ou moins acides pour pouvoir récupérer ce lithium. Première source, l'autre, c'est le lithium qui provient de Salar, des grands lacs salés, du triangle ABC pour Argentine, Bolivie, Chili, d'Amérique du Sud, où le lithium est extrait par évaporation de ces lacs. Et c'est ce procédé qui permet de précipiter, de former ces sels riches en lithium. Il y a deux impacts majeurs dans les deux sources d'approvisionnement. C'est à la fois le bilan carbone, avec des routes commerciales extrêmement importantes sur des cargos, des bilans carbone qui sont désastreux. Et ce qui se passe en Amérique du Sud, c'est que finalement, on évapore cette eau, et cette eau, elle est perdue. Donc le bilan hydrique, il est catastrophique. Il y a un déséquilibre des eaux souterraines, de tout l'écosystème, et de la biodiversité également en Amérique du Sud.
Ah oui, donc si on l'écoute, il y a quand même un vrai problème écologique avec le lithium.
Oui, mais on ne peut pas comparer avec la situation française, parce qu'en Alsace, on s'appuierait sur la géothermie. Il y a des centrales qui produisent déjà de l'électricité à Soultz-sous-Forêt ou de la chaleur à Rittershoffen avec de l'eau pompée dans le sous-sol. Maintenant, il est vrai que si on veut extraire du lithium, il faudra construire plus de centrales et donc forer plus de puits. Or, la géothermie comporte des risques de séisme, notamment.
Ah oui, c'est vrai qu'on se souvient que ça s'était produit, notamment à Vandenay, près de Strasbourg.
Effectivement, alors est-ce que ça ne risque pas de se reproduire si on multiplie les forages? C'est ce que j'ai demandé à l'expert Romain Millot, mais lui assure que le responsable du séisme à l'époque, l'entreprise Fonroche, n'avait pas respecté les règles et que, mis à part cet incident, on n'aurait pas constaté d'autres problèmes jusqu'à présent.
La géothermie à Soultz-sous-Forêt, elle existe depuis 30 ans et il n'y a pas de sismicité qui a été détectée. L'eau circule naturellement depuis plus de 30 ans. Il y a également Rittershoffen, qui est une centrale un peu plus récente et qui produit à la fois de la chaleur, de l'électricité et puis qui pourrait être aussi adossée à une unité de production de lithium.
Ouais, de lithium pour l'industrie automobile donc. Mais dans l'Allier, Maxime, ce n'est pas avec la géothermie qu'on va l'extraire, ce lithium. Là, on va bien casser de la roche, non ?
Effectivement, et lorsqu'on demande des précisions sur l'impact environnemental du projet, plusieurs questions restent sans réponse.
C'est-à-dire ?
Eh bien, sur deux points, Imerys ne répond pas, ou en tout cas pas encore, sur l'utilisation de produits chimiques et sur l'utilisation de la ressource en eau, parce qu'extraire du lithium issu de roche nécessite beaucoup d'eau. Or, dans l'Allier, comme partout en France, la ressource vient à manquer. Xavier Tabaran est guide dans le secteur de la mine des Chassières. Il est venu à l'une des réunions publiques organisées par Imerys et il a le sentiment qu'on ne répond pas à ses interrogations.
Pour l'instant, on ne sait pas, en fait. Personne ne sait rien et on va voir. Mais c'est vrai que c'est une peur qui est réelle. Il y a encore quelques années, ici, tous les trous étaient remplis d'eau. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y en a très peu, il y a vraiment le grand bassin où il y a de l'eau, puis tout le reste c'est à sec. Et c'est pas que de cet été, c'est la sécheresse de ces dernières années, puisqu'il y a plusieurs sécheresses de suite. Là. L'eau, aujourd'hui, ça va être quelque chose de crucial dans le futur. On sait que dans le futur, il n'y en aura pas plus.
Et il n'est pas le seul à s'inquiéter pour l'eau. La forêt des Colettes, proche du site, est une zone Natura 2000 et il y a notamment là également un maraîcher et un cultivateur de noisettes.
Mais pourquoi Imerys ne dit pas clairement de quelle quantité d'eau il aura besoin ?
Parce que, dit-il, son projet n'est pas encore ficelé. Selon un porte-parole de l'entreprise, il y a encore des études à faire. C'est ce qu'il nous dit dans cet email dont nous avons fait lire un extrait.
Le groupe procède dès aujourd'hui, par l'intermédiaire d'un bureau d'études spécialisé, à des analyses hydrogéologiques et hydrologiques complètes pour estimer tout impact potentiel sur la ressource en eau, les populations et sur l'environnement. Il est trop tôt à ce stade du projet pour savoir précisément quels produits chimiques nous utiliserons, puisque les procédés utilisés ne sont pas encore définis.
Ouais, donc on annonce un projet, mais on n'en a pas encore évalué les conséquences.
Effectivement, car ce projet dans l'Allier n'en est qu'à ses débuts. Imerys a annoncé que le gisement de lithium était suffisant pour être exploité, mais il n'a pas encore demandé d'autorisation de concession minière. Et ce n'est qu'ensuite qu'on commencera à y voir un peu plus clair sur l'impact du projet, comme le relève Olivier Gourbineau, qui est juriste à France Nature Environnement.
Pour l'instant, on a un opérateur qui nous dit « j'ai eu pour projet de faire une mine, c'est génial sur le plan économique, c'est génial sur le plan de l'indépendance énergétique française, mais il n'a pas déposé de demande, il n'a pas présenté un document qui évalue les conséquences environnementales de son projet. Cette concession, pour pouvoir l'obtenir, il va falloir qu'il présente une analyse des impacts environnementaux et socio-économiques. À ça s'ajoute le fait que pour faire une mine de lithium, il faudra monter une usine pour traiter les rochers qui ont été extraits. Et là aussi, il faudra qu'il y ait une procédure d'autorisation de l'usine pour s'assurer qu'elle ne rejette pas n'importe comment et qu'elle gère comme il faut les déchets, qu'elle n'utilise pas trop d'eau ou trop d'énergie.
D'où la mise en garde de plusieurs élus locaux qui estiment que le plus dur est encore à venir pour Imerys. Imerys qui espère ouvrir sa mine en 2028.
Ouais, donc on a encore le temps d'en reparler. Merci pour tous ces éclairages, Maxime Tellier. Alors je précise que votre enquête, on peut la lire sous forme d'article sur franceinter.fr. On peut la podcaster aussi sur l'appli Radio France. Sachez par ailleurs que si vous voulez nous transmettre des informations de manière anonyme et sécurisée, désormais vous pouvez le faire en tapant dans votre navigateur alerter.radiofrance.fr. Et puis surtout, restez avec nous dans quelques instants. Vous allez voir que même les journalistes sont parfois approchés par des espions russes. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard?
mosaic ceilings, painted tiles on the wall. I can't help but feel somewhere like my body, mind, my soul. Handmade beauty sealed up by two man-made walls. And I might, when's it gonna be my turn? When's it gonna be my turn? Open me up, tell me you like it. Love me to death, love me until I love myself. There's a tunnel under Ocean Boulevard. There's a tunnel under Ocean Boulevard. There's a girl who sings Hotel California. Not because she loves the notes or sounds or sound like Florida. It's because she's in a world preserved. Only a few have found the door. Like Maria, only silver mirrors running down the corridor. Oh man, when's it gonna be my turn? Don't forget me. When's it gonna be my turn? Open me up, tell me you like me. Love me to death, love me until. Something about the way he says don't forget me makes me feel like I just wish I had a friend like him, someone to give me five. Leaning in my back, whispering in my ear, come on baby, you can drive. But I can't. When's it gonna be my
On a l'impression d'être sous l'eau, c'est un peu l'idée d'ailleurs de cette chanson « Did you know that there's a tunnel under ocean ?» Un tunnel sous l'océan. Et c'est extrait du 9e album de la chanteuse américaine Lana Del Rey, dont la sortie est prévue pour mars prochain.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Romain Mielcarec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un journaliste indépendant, membre du collectif Long Shot, et vous publiez Les Moudjiks, la France dans les griffes des espions russes. C'est un livre où vous racontez notamment comment vous avez été vous-même approché par un espion du ou de la GRU, le renseignement militaire russe. Il s'appelle Sergueï Solomassov. On est un soir d'octobre 2013, vous êtes alors jeune journaliste. Racontez-nous donc, puisque c'est le point de départ de votre livre, comment les choses se passent.
C'est ça, il y a les journalistes qui commencent une enquête sur un coup de nez, qui ont la bonne idée, et puis il y a ceux où ça leur tombe dessus un peu malgré eux. À l'époque, Sergueï Solomassov m'approche très simplement en me disant, voilà, je viens d'arriver à l'ambassade de Russie à Paris, je cherche à rencontrer du monde, à mieux comprendre le fonctionnement du pays, à développer mon réseau, et il me tend une carte de visite, très, très formellement, et c'est le point de départ de cette enquête qui va durer une dizaine d'années.
Alors vous avez discuté, vous allez vous rendre compte qu'il est pétri de la propagande russe. Le 11 septembre, c'est un complot des Américains, bon, etc. Et puis, il vous raccompagne chez vous. Et là, vous vous dites après coup, finalement, il était déjà en train de mesurer où vous habitiez, quel était votre éventuel entourage.
Effectivement, contrairement à d'autres relations de ce type-là qu'on peut avoir avec des sources, il a des initiatives qui sont un petit peu étonnantes. Au tout début, je vais me dire, bon, bah, c'est peut-être des maladresses, mais il va poser beaucoup de questions sur mon niveau de revenu. Il va essayer de se renseigner sur mon entourage, savoir si je suis marié, si je suis heureux en couple, essayer de savoir si dans ma famille, il y a des personnages qui peuvent être intéressants. Et puis, à plusieurs reprises, il essaye de me raccompagner jusque chez moi pour voir dans quel quartier j'habite, dans quel immeuble j'habite. Donc des informations qui vont un petit peu au-delà de la simple relation entre source et contact.
Et ce qui fait que vous comprenez qu'à un moment donné, il vous ment, c'est le cigare. Il vous explique qu'il aime les Havanes, vous lui donnez un Havane, simplement lui il avale la fumée, puis vous voyez qu'il devient blanc comme un... Donc il a jamais fumé de cigare, contrairement à ce qu'il vous dit.
Je raconte dans l'histoire que le mensonge prend plein de formes et que ça va jusque dans ce type de petites attentions où il me fait croire qu'on partage des choses comme le goût pour le whisky et le cigare. Et je me rends compte qu'effectivement il ne sait pas du tout fumer et qu'il a menti y compris sur ça. En réalité à ce moment-là, moi je sais déjà que c'est un officier de renseignement puisque très tôt dans cette histoire, les services français vont venir vers moi et vont m'alerter.
Ouais, alors justement, la DCRI, donc l'ancêtre de la DGSI, hein, la DCRI à l'époque, vous contacte et vous informe et vous dit, en gros, c'est un espion et on aimerait que vous continuiez à le fréquenter.
C'est ça. Les deux camps sont dans la même logique. Leur objectif, c'est de recruter des sources qui vont leur permettre de récolter de l'information et du renseignement. Les Français m'appellent sur mon téléphone, numéro masqué, me disent pas au téléphone pourquoi ils veulent me rencontrer et fixent un premier rendez-vous. Ils vont m'expliquer les méthodes, le fonctionnement des services de renseignement russes pour que déjà moi ça m'alerte et que je puisse me défendre. Et puis ils vont me dire, nous ça nous intéresserait que vous nous disiez ce qui se raconte dans ces rendez-vous, comment ça se passe, et éventuellement que vous posiez des questions. C'est là où moi je vais fixer très vite une limite qui est, je suis journaliste, je veux bien qu'on se rencontre et qu'on échange, mais par contre je ne ferai pas autre chose que mon métier de journaliste, donc je ne poserai pas de questions que je n'ai pas à poser, et je ne vais pas me mettre à récolter des informations que je ne récolterai pas dans le cadre de mon travail.
Mais ça veut dire quand même que les informations que vous récoltez dans le cadre de votre travail, vous les répercutez à la DCRI.
Des deux côtés,
donc
en
vous
fait.
Vous devenez un agent de renseignement français.
Alors, un agent de renseignement, non. Une source pour le renseignement, oui.
Un informateur.
Une source. Une source pour les deux. C'est-à-dire que la limite que je fixe, alors aux Français en leur disant, aux Russes sans leur dire, c'est que je ne dis que ce que j'envisagerais d'écrire. Je ne partage rien d'autre que ce que moi-même je serais amené à écrire dans mes articles, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et je fais très attention justement à pas franchir une limite qui serait au-delà de mon métier.
J'entends bien, hein, Romain Mielkarek, mais est-ce que vous entendez aussi qu'un journaliste puisse être surpris que dans le cadre de l'exercice de vos fonctions de journaliste, vous informiez les services de renseignement français ?
Si c'était ça la problématique, que ce soit surprenant, oui, ce serait même gênant, ça poserait un énorme problème d'éthique. Il est arrivé par le passé que des journalistes, y compris des très grands, soient tentés par ce genre de choses. Je dis pas qu'à un moment ça m'a pas effleuré l'esprit, c'est un vrai sujet. Et donc ça impose une grosse discipline, ça impose de vraiment faire très attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, à comment on le dit. Et y compris parfois dans les échanges, à dire... La question que vous venez de me poser, je ne sais pas comment je fais pour y répondre sans franchir une ligne. Donc je vais prendre le temps de la réflexion, je ne vais pas vous répondre tout de suite, et je verrai la prochaine fois qu'on se voit si j'accepte de vous répondre ou pas. En réalité, ce type de dilemme, on les a avec toutes les sources un peu sensibles sur lesquelles on travaille. Là où c'est particulièrement délicat avec des services de renseignement, c'est que eux, c'est vraiment leur travail de vous faire parler. Mais... Quand vous discutez avec des militaires, quand vous discutez avec des diplomates, quand vous discutez avec des combattants sur un champ de bataille, ils font ça également. Ils vous posent plein de questions pour essayer de tirer de vous l'information qui pourrait leur servir.
Mais là, ça va plus loin parce que vous racontez que la DGSI, donc les actuels services de renseignement français, vous encourage donc à continuer de le fréquenter, ce Sergueï Solomassov, et qu'il vous rembourse même des notes de frais et vous racontez que des tournées de bière ont été payées par les services de renseignement français.
Ouais, ça m'a permis de fonctionner pendant toute cette période-là. Ça, je dirais pas que c'est une méthode optimale de travail.
Donc c'est la police qui finance vos enquêtes, en fait.
À ce moment-là, la police m'a aidé à financer mon enquête.
Ouais. Bon, écoutez, chacun jugera, hein. C'est intéressant de le lire dans votre livre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment cet espion russe vous teste. C'est-à-dire qu'il vous demande d'acheter un catalogue de pièces détachées d'avions. Il veut un abonnement à Intelligence Online. C'est une lettre d'information sur le renseignement, justement, qui est publiée sur Internet. Et puis, il vous demande un téléphone portable.
C'est ça. Alors, moi, mon analyse, c'est que le but est d'essayer de m'amener progressivement à accepter des choses de plus en plus délicates. Pour mettre la source dans un état intellectuel et psychologique d'accepter les futures demandes. Donc, on demande d'abord des choses très simples, très anodines, qui ne demandent pas un gros effort pour accepter, un petit service. Et puis, de plus en plus, ils vont essayer d'aller plus loin dans les demandes qu'ils font.
Mais à force de fréquenter donc un espion russe et en même temps les services de renseignement français, vous connaissez de mieux en mieux ce milieu et vous devenez un peu parano. Vous racontez, enfin parano peut-être à juste titre, hein, vous racontez cette soirée dans laquelle vous rencontrez une certaine Natacha, une belle femme très élégante. Vous lui proposez de venir boire un verre chez vous. Et puis tout d'un coup, vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire?
C'est ça, ça crée des réflexes. Alors, clairement, là, dans ce contexte-là, il y a eu ce type de réflexe. Et on arrive à un stade où, lorsque l'on croise des personnes russes, on se dit, attention, c'est peut-être pas totalement anodin, c'est peut-être pas totalement neutre. Et typiquement, cette histoire où une jeune femme, effectivement très séduisante, tout d'un coup se montre très ouverte à mon égard, ça m'a un peu surpris et j'ai eu cette réaction paranoïaque, a priori irrationnelle, à moins que...
Ouais, vous lui offrez le thé, puis vous la mettez dehors, quoi.
C'est ça.
Alors, Sergueï Solomassov vous fera rencontrer d'autres espions russes, ensuite, et puis il va disparaître.
Alors, il me présente sa relève, et effectivement, à ce moment-là, il me dit au revoir comme si on était amis, et puis, totale rupture des ponts et des contacts, les mails sont inutilisables, les téléphones ne marchent plus, et donc, si tant est qu'à un moment, j'ai pu croire que nous ayons eu une relation vaguement amicale. À ce moment-là, c'est sûr que au moins le message est clair.
Bien, merci Romain Mielkarek. Alors, je rappelle que votre livre, pour ceux qui voudront en savoir plus, il y a plein d'autres anecdotes et puis d'analyses aussi, il y a d'autres analyses dans votre livre. Donc, je précise qu'il s'intitule « Les Moudjiks, la France dans les griffes des espions russes » et je précise qu'il est édité chez De Noël. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique et à la technique, il y avait Nicolas Goussin et Nicolas Delmas. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.